FKP Retro fait revivre les tubes des années 60, 70 et 80. Rumba, pop, disco, slow, des heures de musique congolaise, africaine, européenne et américaine. Le dimanche soir de 19h à minuit, le lundi et le mardi de 21h à minuit. Avec les mix de DJ Daddy.
Comment analyser une offre d'emploi? De nombreux dossiers des demandeurs d'emploi sont souvent déclassés parce qu'ils sont pas conformes aux exigences du recruteur. D'après les spécialistes, les personnes en quête d'emploi sont souvent pressées de vite déposer leur demande sans avoir eu le temps de décrypter minutieusement l'offre. Pour postuler à une offre, il faut avant toute chose bien savoir la décoder, la décrypter. Comment le faire? Yves Daniel Ngavan est consultant en développement organisationnel. Il est notre invité depuis Lubumbashi, notre studio de Lubumbashi, dans la ville, dans la province du Katanga. Yves Daniel Ngavan, encore une fois, bonjour.
Bonjour.
Alors, dites-nous, comment analyser une offre d'emploi?
Ok, merci, monsieur le journaliste, pour l'invitation. J'aimerais d'abord rappeler que la RDC est l'un des pays qui est caractérisé par un taux très élevé de taux de chômage et où l'accès à l'emploi semble être très difficile, surtout pour les jeunes qui sortent fraîchement de l'université. Et là, il y a trois raisons essentielles qui font que l'emploi soit très difficile à la RDC. D'abord, c'est l'ambiguïté de notre système éducatif qui reste long, vague et souvent trop théorique. Il y a aussi, il faut noter l'absence de vraies politiques d'emploi, surtout en faveur de jeunes. Et troisièmement, c'est l'absence de la maturité professionnelle qui caractérise plusieurs jeunes chercheurs d'emploi. Cela se traduit par exemple dans la rédaction des CV qui portent encore des stigmates ancestrales qui n'ont rien à voir avec la profession, c'est-à-dire vous allez voir les CV avec le territoire d'origine des chefferies et tout autre, alors que ça n'a rien à voir avec l'emploi. C'est pourquoi nous disons souvent aux jeunes qui passent dans nos cabinets que avoir un diplôme n'est pas synonyme d'employabilité et aussi ce n'est pas le nombre de demandes d'emploi déposées qui vous qualifie à un poste quelconque. Mais plutôt, il faut d'abord savoir comprendre les exigences de l'emploi et aussi savoir comment présenter son dossier pour avoir une meilleure posture par rapport à l'entreprise. Voilà ce que je peux dire d'entrée de jeu.
D'accord. Alors Yves, c'est pour tout celui qui se retrouve devant une offre, devant une entreprise où on recrute, souvent on voit des gens avec des stylos et carnets en train de noter, de prendre note. Alors comment arriver à bien décrypter une offre d'emploi? Quels sont les éléments essentiels à tenir compte?
Ok. Généralement, la phase de recrutement dans une entreprise est toujours précédée par la définition de poste. Lorsqu'on définit le poste, pour le rendre public, on fait passer ce qu'on appelle une offre d'emploi, l'appel d'offre. Alors, lorsque l'entreprise extériorise l'offre, c'est-à-dire, il désire recruter des personnes qui ont des potentialités par rapport au poste qu'il met, qui rend public. Alors, notez qu'il y a quatre stratégies essentielles qui se cachent derrière chaque offre. Premièrement, quand vous voyez une offre, la première chose, il faut chercher ce qu'on appelle la partie de la présentation ou la partie administrative de l'offre. Et là, on retrouve par exemple le nom de l'entreprise, le lieu d'affectation, le type de contrat, les titres de poste et les numéros de référence. Cette partie est très importante parce que ça vous permet déjà d'avoir une idée sur l'entreprise que vous voulez postuler. L'entreprise est localisée à quel niveau et vous pouvez déjà même faire de recherches pour comprendre quelle est la philosophie, quelle est la vision, la mission ainsi que les valeurs de cette organisation. Parce qu'il y a des gens qui arrivent à l'emploi, on leur pose la question « qu'est-ce que tu connais de notre entreprise ?» et ils n'arrivent même pas à parler. Donc ça c'est la première partie qu'il faut rechercher et analyser sérieusement. Deuxième partie, c'est ce qu'on appelle la partie contextuelle ou la partie des descriptions de responsabilité. Dans cette partie, vous allez trouver par exemple, l'entreprise prend soin de donner une petite un contexte dans lequel il veut recruter la personne. Il donne aussi la hiérarchie. La personne va travailler sous la responsabilité de qui? C'est très important à reconnaître tout cela. Et on donne aussi les tâches que doivent exécuter la personne. Mais c'est là où ça pose plus de problèmes. Les gens, quand ils sont devant l'offre, ils sont pressés à prendre juste les titres et aussi ils prennent jusque vers la fin là où il faut envoyer et ils vont à la maison pour préparer la candidature. Alors que C'est très important de passer en revue de différentes tâches ou responsabilités proposées dans l'offre. Tâche après tâche, vous analysez sérieusement, vous voyez les mots qui sont difficiles, vous cherchez les explications, parce que le secret de ces postes se cache dans ces tâches et ces responsabilités. Mais troisièmement aussi, il y a la partie qu'on appelle la partie qualification ou compétences requises. Et dans cette partie, nous avons, par exemple, on donne des titres, soit des titres académiques ou des formations qui sont compatibles à l'emploi. Et aussi, on donne certaines qualités managériales qu'on demande à ce que le candidat puisse posséder. Par exemple, être capable de travailler sous pression, être capable de travailler en équipe, en autonomie, ainsi de suite. Mais la quatrième partie qu'on doit rechercher dans l'offre, c'est ce qu'on appelle les orientations au poste. Et là, on donne par exemple le type de document qu'il faudra déposer, généralement CV, lettre de motivation, ainsi de suite. On donne le nom de la personne à qui il faut adresser sa candidature, l'adresse ainsi que la date de clôture. Voilà un peu les quatre éléments qu'il faut prendre soin sérieusement à rechercher dans l'offre, analyser élément par élément avant de commencer à préparer sa candidature.
Alors, vous dites que généralement, les demandeurs d'emploi ne prennent pas le temps d'analyser ces quatre éléments.
Ils ne prennent pas le temps. Généralement, nous constatons, lorsqu'il est devant l'offre, il prend juste le titre du poste et il prend la date, peut-être il note la date de la fin et la personne à qui il faut adresser ainsi que l'adresse de l'organisation. Et il rentre à la maison, vous allez voir, il y a des gens qui ont déjà des CV préétablis, avec même à la fin, ils mettent déjà des pointillés, c'est-à-dire il attend seulement, lorsqu'il y a l'offre, il complète la date, il signe, il envoie. Donc les CV inamovibles qui ne bougent pas. Alors que dans matière des CV, nous savons que les CV doivent être adaptés à chaque offre. Et vous allez voir aussi, même des lettres de motivation, il y a déjà des gens qui ont des lettres de motivation préétablies. Il prend le titre, il complète, il envoie. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'offres ne répondent pas, beaucoup de demandeurs ne reçoivent pas de réponse, tout simplement parce qu'ils ont des CV qui n'ont rien à voir avec les postes qui se trouvent en face de lui.
On peut dire des CV standards, ils estiment que c'est déjà établi, donc dès qu'il y a une offre, je n'ai plus pas rien à retoucher, j'envoie tel quel.
Effectivement, ce sont ces types de CV que nous appelons des CV tentés, des stigmates ancestrales, parce que vous trouverez dans ces CV, par exemple, on prend tout son temps à décrire les territoires d'origine, des chefferies, des villages, des noms des pères, noms de ceci, alors que ça n'a rien à voir avec l'emploi. Au lieu de se concentrer pour voir les différentes parties de l'offre qu'il faudra analyser, surtout les tâches qui sont rapportées à ces postes, mais les gens passent plus de temps à écrire des choses qui ne sont pas compatibles, sans oublier que les entreprises ne sont pas des clubs caritatifs où nous avons vu par exemple des gens qui écrivent dans leurs lettres de motivation « S'il vous plaît, prenez-moi, je suis orphelin ». Donc c'est aberrant parce que les entreprises sont là pour leurs propres intérêts et non pour vous satisfaire. Donc ils veulent que vous puissiez leur présenter quelque chose de consistant et au retour, ils vont te payer aussi conséquemment. Mais les gens pensent que c'est par pitié qu'on doit leur donner du travail et ça pose trop de problèmes pour les jeunes qui cherchent l'emploi.
Comment analyser une offre d'emploi? Yves-Daniel Gavan, consultant en développement organisationnel et l'invité d'Okapi Service, vous voulez participer à cette émission, composez le 081-890-6394.
Pour s'informer, de plus en plus d'internautes choisissent radiookapi.net. Chaque mois, vous êtes plus d'un million à nous suivre sur www.radiookapi.net et votre avis nous intéresse. Chaque jour, une question d'actualité est à la une du site, plusieurs propositions. Exprimez votre opinion. Écoutez les résultats de cette consultation sur l'antenne chaque jour à 8h45 et après les infos de 16h30 sur radiookapi.net.
Yves-Daniel Ngavan est notre invité, il est consultant en développement organisationnel, il est dans le studio de Lubumbashi dans la province du Katanga pour répondre à vos préoccupations. Des auditeurs déjà en ligne, Benny Ukelo est à Bounia, Omar Kigalo nous appelle des Kinshasa. On commence avec Benny, bonjour.
Bonjour Monsieur Jody.
On vous écoute.
Et bonjour à Monsieur Yves-Daniel.
On vous écoute bien.
Ma question est celle-ci. À quel moment faut-il déposer son dossier avant la date de clôture?
Voilà, vous êtes à côté de votre radio allumée. Voilà, à quel moment faut-il déposer son dossier avant la date de clôture? Merci Omar Kigalo de Kinshasa, bonjour.
Bonjour Jolie Kachamé, bonjour à l'invité.
On vous écoute.
Merci. Ma première question est celle de savoir, est-ce que l'invité peut-il affirmer que toutes ces méthodes qu'il donne ont échoué parce que une ONG internationale vient de publier les statistiques en Afrique. Il est démontrant que la plupart des gens sont engagés, pas sur base des critères scientifiques, mais sur base des critères d'affinité. Est-ce qu'il peut affirmer cela? Deuxième question. La plupart des offres d'emploi demandent aux jeunes une expérience professionnelle qu'ils n'ont pas, ce qui, pour nos juristes, une sorte de discrimination. Quand on analyse l'offre d'emploi, qu'est-ce que le jeune doit faire pour contourner cette exigence malheureuse? Et troisième question, lorsqu'on rédige la lettre de motivation, j'ai lu un des experts, il a dit, il faut pas écrire dans l'objet ma motivation. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans l'objet lorsqu'on adresse une lettre de motivation? Et quatrième et dernière question, quelle est l'importance de toutes ces méthodes qu'il nous donne? Parce que si quelqu'un est compétent, il est compétent. Pourquoi encore mettre beaucoup d'exigences pour compliquer les gens? Merci beaucoup et je vous remercie jeudi.
Bien, Rachel Ndjounjou depuis Iziro, bonjour.
Allô, bonjour.
On vous écoute.
Oui, j'ai une petite question pour vous inviter. En parlant de demande, donc chaque fois vous rédigez une demande, je voulais dire parce que je suis souvent à la radio, on dit il y a tel emploi, donc ils veulent recruter des jeunes, mais il faut avoir l'expérience de 5 ans, de 3 ans, tel domaine à tel domaine. Là, et le jeune, donc les jeunes qui viennent à peine de terminer l'université, mais s'ils n'ont pas encore fait de travail à question, mais il peut être du domaine, non? Vous voyez? Alors là, quand il rédige, il va pas peut-être écrire qu'il a fait 3 ans de l'expérience, 5 ans de l'expérience, et là, on risque de ne pas demander, de ne pas demander sa demande. Pourquoi pas donner aussi la chance aux jeunes d'essayer peut-être du domaine, mais quand il n'a pas encore fait 5 ans ou 3 ans, là, il n'est pas recruté.
Voilà, mais la question du jour, c'est comment analyser une offre d'emploi. Donc, posez beaucoup plus de questions par rapport à l'analyse d'une offre. Là, on aborde un peu beaucoup d'autres aspects. Assoumani, vous êtes à Kindu, bonjour.
Oui, bonjour Radio Kapi, je suis à Namoya dans la province de Mar.
D'accord, on vous écoute. Nous parlons aujourd'hui de l'analyse d'une offre d'emploi. Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Ça va, j'ai entendu notre invité, tout ce qu'il a commencé à parler par rapport à ça. En tout cas, c'est une thématique qui est un peu intéressante. Alors, j'aimerais juste informer et peut-être demander au fait de notre invité. Bien sûr, il a parlé de 4 éléments pour réussir à une offre d'emploi. Alors,
pour analyser, oui.
Celui-ci, vous pouvez avoir quelques mois de fait le développement communautaire. Chaque année, nous avons un cours de pratiques professionnelles. Nous faisons un mois comme ça de pratiques professionnelles. Mais, dès qu'on a une offre, il y a l'obligation de dire que non, il fallait avoir une certaine expérience. Alors, je ne sais pas comment est-ce que nous pouvons accéder maintenant à une offre d'emploi. Oh, on a bien sûr parlé de dire que non, en tout cas, vous devez avoir quelque chose, par exemple, vous devez avoir pratiqué tout ça. Or, nous avons étudié tout ça. Moi, j'aimerais vous dire seulement que il y a un problème qui est là, dès qu'on lance une offre, on a directement recruté quelques gens, mais on fait seulement ça par une certaine complémentarité des choses. Parce qu'on peut lancer l'offre. Vous faites votre demande, mais tout en faisant votre demande, arrivez à la fin, votre demande n'est plus acceptée, mais l'autre qui n'était pas n'est pas au test, il vient d'apparaître là. En tout cas, c'est pourquoi il y a un peu de désordre par rapport à ça.
D'accord. Yves-Daniel Ngavan, vous êtes consultant en développement organisationnel à Lubumbashi. Vous avez suivi les questions des auditeurs. Vous parlez des 4 parties pour analyser une offre d'emploi. Mais il y a la question, d'abord commençons par Bémy qui dit, alors à quel moment déposer son dossier après avoir analysé et préparé tous les éléments du dossier?
Ok, merci à Madame Bémy de... Depuis Bounia, l'épouse à M. Pacifique, que je salue en passant. Écoutez, lorsque vous êtes en face de l'offre et que vous finissez l'analyse, la première des choses, c'est mettez-vous à la rédaction de vos documents. Premièrement, rédigez votre lettre de motivation et rédigez votre CV. Essayez de joindre tous les documents nécessaires, placés dans une enveloppe et aussitôt, vous pouvez aller déposer. Parce que nous avons une culture au Congo, généralement, les gens se réveillent tard. C'est les jours où on clôture, qu'on voit les gens se bousculent. Il y a même des gens qui sont prêts à corrompre pour venir un peu en retard déposer alors qu'on laisse généralement entre 10 à 15 jours aux candidats. Donc le mieux c'est de les faire tôt, ne pas attendre le dernier jour. Mais le deuxième auditeur qui a plus parlé en termes d'affinité, il a posé une question sur l'expérience, la lettre de motivation et autres. J'aimerais lui dire que la première chose qu'il faut éviter lorsqu'on cherche l'emploi, c'est d'être négatif. Parce que la première personne qui a travaillé dans un poste quelconque, nous nous posons la question où est-ce qu'il avait tiré cette expérience. C'est-à-dire que la question de l'expérience, ce n'est pas une grande question qui doit inquiéter la plupart des gens. Parce que nous avons même constaté que plusieurs, lorsqu'ils vont, ils sont devant une offre, ils regardent les titres, ils regardent juste là où on a écrit expérience, et ils se découragent, ils se démotivent, ils rentrent à la maison. Mais moi, je peux leur dire ceci. Il n'existe jamais de l'expérience sans expertise, mais on peut détenir de l'expertise sans expérience. C'est-à-dire quoi? L'expérience n'est qu'une durée dans l'applicabilité de quelque chose, dans la durée qu'on a acquis en pratiquant quelque chose. Alors que l'expertise, c'est une maîtrise qu'on a par rapport à un secteur bien donné. Donc ce que les jeunes oublient, c'est que premièrement, il faudra, lorsqu'on quitte l'université, le système que nous décrions, il faut élaborer ce qu'on appelle un plan de carrière professionnelle. Nos jeunes, quand ils quittent l'université, tu leur poses la question, tu peux travailler dans quel secteur? Ils disent, tout ce qui se présente, ou tout ce que vous allez me dire, je vais le faire. Mmh. C'est absurde. Personne ne peut être capable de tout faire. On doit avoir un plan de carrière professionnelle. On doit s'affilier ou s'orienter par rapport au poste, par rapport aux dispositions professionnelles qui se trouvent dans votre région, ainsi de suite, par rapport aux postes qui sont disponibles. Lorsque vous faites ça, vous pouvez vous aligner en ayant des formations appropriées qui vont vous doter de l'expertise pour pouvoir faire ce travail. Parce que c'est l'expertise qu'on a plus besoin pour vous aider à avoir le travail que l'expérience. Parce que quelqu'un peut être là, il a travaillé pendant 10 ans dans un secteur, mais qui n'a pas une maîtrise quelconque, on ne va pas le prendre en termes d'années. Mais on voit plus celui qui a de l'expertise, même s'il n'a pas encore travaillé, mais on peut le prendre parce qu'il démontre par des formations qu'il a suivies, par des informations qu'il a mis dans ses documents, ça prouve à suffisance qu'il a quelque chose qu'on peut le rappeler. Mais certainement, quand vous voyez les CV, quand vous voyez des lettres de motivation, les gens ne mettent presque rien. Ils n'écrivent presque rien parce que, or, les éléments qu'ils doivent mettre dans leur lettre de motivation oui. ou dans leur CV sont déjà contenus dans l'offre. Mais comme ils n'ont pas les capacités d'analyser correctement l'offre, ils n'ont pas d'éléments à mettre et ils sont disqualifiés. Et ils se cachent derrière l'expérience professionnelle. Mais moi, je peux vous dire qu'il y a des jeunes que nous avons reçus dans notre cabinet qui viennent fraîchement de l'université, oui. qui ont choisi des filières pour se faire former sur le plan professionnel. Et tout de suite, on les a appelés dans les interviews et certains sont même déjà engagés. Donc là, ce n'est pas une question qui doit mettre les jeunes mal à l'aise. Voilà. Mais par rapport à la lettre de motivation, ce qu'on doit retenir, c'est que...
Yves, un instant. Alors revenons d'abord à la question à 5 ans d'expérience, parce que chaque personne qui tombe devant une offre d'emploi, c'est cette partie qui attire beaucoup plus les demandeurs d'emploi, et dès qu'ils voient 5 ans d'expérience, la plupart sont découragés sans avoir lu, comme vous l'avez dit évidemment, toutes les autres parties, la partie contextuelle ou la description des responsabilités telle que vous l'avez dit. C'est ça le grand problème chez la plupart des demandeurs d'emploi. Alors qu'est-ce qu'il doit faire par rapport à cela?
Ok, par rapport à ça, c'est très simple. Comme on a dit, quand vous êtes en face d'une offre, il faut d'abord savoir qu'il y a 4 parties que vous devez analyser. Mais par rapport à l'expérience professionnelle, la partie la plus intéressante qu'il faut plus analyser, c'est la deuxième partie qu'on appelle la partie contextuelle ou la description des responsabilités. Et là, vous allez voir, il y a toujours une partie où on a mis les tâches ou encore les responsabilités liées à ces postes. On met par exemple, il peut y avoir une dizaine qu'on est en train de citer en termes de points, on cite, ils doivent être capables, donc il va assurer la planification de ceci, de cela. C'est cette partie, c'est là où se trouve le secret même, ou la clé de l'emploi. Les jeunes doivent prendre tout leur temps à comprendre tâche par tâche. Quand on dit assurer la planification, au fait, c'est quoi la planification? Quand on dit il faut être capable d'élaborer un rapport, faire ceci, ça veut dire quoi? Ils ne prennent pas le temps à réfléchir sur ce temps-là, parce que ces éléments-là, lorsque vous les maîtrisez, ce sont ces éléments qui sont en relation directe avec l'offre. Et l'entreprise met cela pour essayer déjà que vous puissiez voir, vous puissiez les analyser. Et une fois que vous allez écrire dans votre lettre de motivation, on doit sentir en vous que vous avez des capacités à assumer ces tâches. Vous avez des capacités. Une fois qu'on vous donne l'opportunité de les faire, vous arrivez à mettre ça en application. L'expérience, comme je l'ai dit, ce n'est pas quelque chose qui doit inquiéter. Parce que le plus important lorsqu'on cherche le travail, c'est ce qu'on appelle l'expertise. Parce qu'il n'y a personne qui peut arriver à l'expérience sans expertise. C'est l'expertise qui vous amène au travail. Et à force de travailler, vous allez acquérir l'expérience. Alors que si au départ, déjà, vous n'avez pas d'expertise, vous n'avez pas de maîtrise par rapport à ces postes-là. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui vient de finir en droit, par exemple,
oui.
Il voit quelque part, on recherche un assistant en logistique. Il prend son courage, il prend son CV et la lettre de motivation, il va postuler. Mais qu'est-ce que ce monsieur a étudié en droit qui ont des relations avec la logistique? Rien du tout. De deux, il ne sait même pas analyser l'offre, il n'a pas un bon CV. Comment voulez-vous qu'on donne ce poste à ce monsieur parce qu'il prétend avoir un diplôme en droit? Vous comprenez un peu? Donc, le réalité professionnelle sont différentes des réalités académiques. Le mal avec les jeunes, c'est que quand ils quittent l'université, ils ne prennent pas soin de se rapprocher aux réalités professionnelles en termes de postes qui sont disponibles. Mais ils restent figés avec leur diplôme. Ils pensent que on va les prendre de cette façon. Non. L'expérience, ce n'est pas un handicap, mais plutôt c'est l'expertise qui manque à plusieurs jeunes.
D'accord, c'est plutôt l'expertise qui manque. Célestin, Wakachungu et Akalemi, Prosper Maloba, à Lubumbashi. On commence avec Célestin, bonjour.
Bonjour, ce n'est pas Célestin Wangachungu, mais c'est Célestin Wangachungu.
Oui, Célestin, on vous écoute.
Ok, j'avais deux préoccupations à notre invité de ce jour. La première était de savoir, on peut bien analyser l'offre et se comparer vraiment bien avec les profils exigés par l'offre, mais en cas de corruption, parce que la plupart des entreprises sont corrompues aujourd'hui. Qu'est-ce que l'invité nous propose en cas de corruption, parce que la corruption domine vraiment toutes les entreprises qui œuvrent dans le Congo.
Quand vous parlez de la corruption, oui. À quoi vous faites allusion concrètement?
On fait allusion automatiquement qui peut remplir ou qui peut être en bon terme avec les profils exigés par l'offre, mais lors de la sélection pour les tests, vous n'apparaissez même pas sur la liste. Vous voyez les gens qui n'étaient pas, qui n'ont pas même déposé les dossiers, apparaissent sur la liste. Et toi, tu étais convaincu que ici, moi, j'ai rempli, je suis en règle avec les profils exigés de l'offre. Mais tu n'es pas sur la liste des gens qui vont passer les tests.
D'accord.
Les tests d'emploi.
D'accord.
Ouais. La deuxième préoccupation,
oui.
Ça c'était pour la corruption. La deuxième préoccupation, là il parlait de l'orientation dans un domaine précis ou dans la carrière précise. Ok. Pour moi, ça aussi c'est bon, mais une fois vous vous focalisez dans une carrière, soit carrière choisie par la discipline que tu as suivie, mais chaque fois quand il y a l'offre de ces domaines-là, on vous prive de l'emploi. C'est-à-dire, l'invité peut donner qu'est-ce qu'il peut donner demandeur d'emploi comme technique, comme moyen de se retrouver. En cas de ces deux points-là.
Bien, merci. Prosper Maloba de Lumbashi, bonjour.
Bonjour.
Nous parlons de l'analyse d'une offre d'emploi. Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oui, ma question est celle-ci. Pour qu'on puisse bien analyser votre lettre, on doit écrire combien de phrases au maximum? C'est ça ma question.
Combien de phrases? Bien. Yves Daniel.
Oui, merci. Je réponds à notre ami qui a parlé de la corruption. Moi, je pense que la corruption est un phénomène trop vague et trop vaste et trop complexe que nous n'avons pas, nous n'aurons pas tout le temps à parler, mais personnellement, je n'ai jamais vu personnellement ce cas de corruption. Et quand les demandeurs d'emploi disent que non, voilà, il y a quelqu'un qui n'avait même pas déposé, moi, je pense que cette attitude... c'est une sorte de procès d'intention, parce que quand quelqu'un va déposer l'offre, il ne viendra pas dire à tout le monde « j'avais déposé ». Donc l'essentiel, c'est d'être conséquent dans l'analyse de l'offre pour se rassurer que tu as des éléments convaincants que tu envoies. Et si on ne t'appelle pas, je crois qu'il y a quelque chose qui a péché dans ton dossier, au lieu de chercher « non, il y a corruption » ou « il y a quelqu'un qui n'avait pas déposé, on l'a appelé ». Mais s'il y a corruption, bien sûr, il faut les dénoncer. Mais j'aimerais aussi dire à notre ami, c'est que on n'est pas capable de tout faire. Même quand on quitte l'université, on dit qu'on forme des chercheurs, des gens trop théoriques, et quand on vient sur le milieu professionnel, on échoue même à des tests assez simples. C'est pour dire que quand on quitte le milieu académique, on doit tout de suite se focaliser en élaborant ce qu'on appelle le plan de carrière professionnelle. C'est-à-dire, j'ai fini les études la première année, selon mon profil, soit académique ou mes atouts naturels, quels sont les types de postes que je peux occuper d'ici 1 ou 2 ans. Et vous fixez des objectifs et vous vous faites former pour acquérir de l'expertise dans ces secteurs et commencer à postuler correctement à chaque fois que tu es en face de ces gens de l'offre. Sinon, on va continuer à vivre ce que nous appelons chez nous l'emploi subi au lieu de l'emploi choisi. Mmh. Donc vous trouvez un jeune qui a fini l'université, il ne sait rien faire et il finit sa vie en train de vendre des téléphones,
oui, Yves,
chez les Chinois.
Voilà, Yves, oui. Vous attribuez, si beaucoup de jeunes ne sont pas recrutés, ce n'est pas à cause des 5 ans d'expérience, nombre d'expériences exigées ou à cause de la corruption, c'est parce que les offres sont mal analysées.
Effectivement, il y a beaucoup de jeunes qui passent à côté de l'analyse. Je vous donne un exemple. Dans notre cabinet, chaque week-end, par exemple, nous analysons, nous décryptons les offres de la semaine avec des jeunes. C'est-à-dire, et quand les jeunes viennent, on fait cette analyse, vous trouvez qu'à la sortie, beaucoup commencent déjà à se rendre compte qu'en tout cas même l'offre, la demande que je venais de déposer récemment, je ne pense même pas qu'on va m'appeler parce que les choses que j'ai écrites dedans, en tout cas j'ai même moi-même honte ou peur d'avoir écrit ce genre de choses. Mmh. Donc ça prouve à suffisance qu'il y a énormément de lacunes que les jeunes continuent à acquiser dans l'analyse de l'offre. Or l'analyse de l'offre, comme je l'ai toujours dit, quand une entreprise veut recruter, il affiche l'offre avec beaucoup de littérature. Toute cette littérature, ce n'est pas pour faire plaisir aux gens. Non, il y a des informations nécessaires que les jeunes doivent comprendre qui se trouvent derrière l'offre. Sinon, l'entreprise mettrait juste les titres et la date de la fin et dit « amenez-moi les dossiers ». Mais quand on prend soin de mettre tous ces éléments, c'est la preuve à suffisance que derrière toute cette littérature, oui, il faut savoir les décrypter pour arriver à comprendre qu'est-ce qu'on veut réellement et les représenter, donc le poster ou le mettre sur vos documents que vous devez envoyer à l'entreprise. Et c'est
bien
de cette façon-là,
oui,
qu'on va vous appeler pour de prochaines étapes et jusque peut-être à la signature de contrat, si c'est possible.
Bien, Rémi Moulangou nous appelle Delicacy. Bonjour Rémi.
Bonjour Monsieur Jody.
On vous écoute.
Oui, monsieur, ma présentation est la suivante. Je voulais juste savoir, pour nous, les demandeurs d'emploi, juste à la fin de notre demande, nous avons toujours l'habitude de souhaiter la bonne compréhension aux donneurs d'emploi. En d'autres termes, la personne qui doit nécessairement recevoir la lettre. Est-ce qu'il est nécessaire vraiment de le faire, souhaiter la bonne compréhension aux donneurs d'emploi? Merci.
Bien, Yves Daniel, on commence par Prosper qui a posé la question de savoir il faut écrire combien de phrases, je comprends peut-être, il veut parler de combien de paragraphes, combien de lignes dans lorsqu'on rédige sûrement sa lettre de motivation.
Oui, en principe, une lettre de motivation ne doit pas dépasser deux pages, c'est-à-dire c'est entre une et deux pages. Mais il ne faut pas écrire, il y a des phrases que nous avons généralement entendues depuis la naissance, j'ai l'honneur, j'ai ceci. Il faut être synthétique en respectant le paragraphe. Au maximum, quatre paragraphes, ça suffit, c'est-à-dire les vous, les moi et les nous, c'est-à-dire l'entreprise, vous-même, et puis ensemble, qu'est-ce que vous pouvez faire. Donc,
Bertrand,
en termes de trois, quatre paragraphes,
Yves,
ça peut déjà aller.
Oui.
En une page, d'ailleurs, c'est conçu, c'est quelque chose de plus pratique.
Oui, Yves, est-ce que le nombre de paragraphes de la lettre de motivation ne dépend pas des informations fournies dans l'offre?
Par rapport aux informations fournies dans l'offre, c'est-à-dire vous n'allez pas prendre ces informations et les mettre, vous allez digérer, c'est-à-dire analyser sérieusement ces informations et essayer d'adapter votre profil à ces informations. Et je vous dis généralement, dans l'aide de motivation, nous avons trois parties. Nous avons le vous, c'est-à-dire l'entreprise, vous avez le nous, vous-même, et vous avez le l'entreprise, vous-même et nous, c'est-à-dire vous et l'entreprise. Ensemble, votre rapport, si on vous appelle dans cette entreprise, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez apporter dans cette entreprise. Et je vous dis, avec trois ou quatre paragraphes au maximum, on peut écrire toutes nos informations, et en une page, ou plus ou moins, si on peut dépasser, on peut arriver à deux pages, on peut sérieusement motiver sa lettre et attirer l'attention des recruteurs.
Voilà, Jérémy qui dit, généralement, quand il rédige sa lettre de motivation, à la fin, ils ont l'habitude d'écrire « bonne compréhension ». Est-ce que c'est une mention nécessaire ou pas?
Bon, je pense que si on peut prendre ça dans le cadre d'une phrase, une phrase de politesse, je crois que c'est toujours nécessaire d'être poli lorsqu'on rédige une demande. Mais ce que nous décourageons, c'est qu'il y a certains aujourd'hui, à force de trop traîner dans les chômages, ils ont eu des habitudes de commencer à pleurnicher dans la conclusion. S'il vous plaît, aidez-moi.
Je suis orphelin.
Ça fait beaucoup d'années, je ne travaille pas, je suis orphelin, je souffre, ainsi de suite. Et là, vraiment, ce sont des choses à décourager et ça ne vous apporte presque rien, parce que les entreprises ne sont pas des clubs caritatifs, mais ce sont des gens qui veulent leurs propres intérêts. Et ils ne peuvent que s'attacher aux gens qui ont aussi un profil qui, une fois entrés, ils vont les aider plutôt à arriver à atteindre leurs objectifs.
Yves, pour terminer, on retient qu'il est important de bien décrypter, de bien analyser une offre d'emploi. Et chaque offre a quatre parties. Vous avez parlé de la partie administrative, où on retrouve l'adresse de la société et toutes les indications possibles. La deuxième partie, c'est la partie contextuelle, la description des responsabilités, les tâches à exécuter. Voilà, toutes les informations sont là. Et dans la troisième partie, c'est la partie qui concerne les qualifications, les compétences requises. Et la quatrième partie, c'est l'orientation au poste, à qui adresser la lettre, où aller déposer, par quels moyens faut-il aller déposer votre demande ou envoyer par mail. Voilà, c'est là-bas qu'on donne toutes ces indications. Je crois que j'ai bien résumé ce que vous avez dit, Yves.
Effectivement, monsieur le journaliste, je crois que vous avez repris pratiquement l'ensemble de l'analyse qui nécessite une attention vraiment particulière lorsqu'on veut faire cet exercice.
Yves Daniel Ngavan, consultant en développement organisationnel, merci et bonne journée à Lubumbashi.
Merci à vous aussi.